continue cette discussion avec les libraires. Donc, Christian Torel, je ne représente pas, et puis aussi Librairie Passage à Lyon, et Francis Chaput, librairie Le Bal des Ardents, pas très loin, rue Neuve, à Lyon aussi. Et donc la particularité du réseau de libraires lyonnais, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'il n'y a pas comme à Toulouse ou à Bordeaux ou à Montpellier de grandes librairies. Il y a plutôt un réseau de librairies qui sont à la fois complémentaires, différentes, et qui ont à la fois, pour un certain nombre d'entre elles, donc il a bien fallu faire un choix. Je pourrais parler de Deux Citres. C'est un peu particulier, Deux Citres est aussi un libraire indépendant. Mais il n'empêche que
ça se discute.
Le choix est de travailler et de faire intervenir des libraires. On aurait pu en choisir bien d'autres, sans doute, qui sont vraiment qui font de la librairie du tramway, Vivant Dimanche, qui font vraiment du travail, de quotidien, de qualité, d'exigence, et qui, pour reprendre l'expression de Christian Torel tout à l'heure, est aussi un travail urbain, c'est-à-dire que ce sont des libraires implantés dans des quartiers, en ville, et qui nous rapprochent du monde des bibliothèques, puisque le monde de la bibliothèque, comme nous l'avait rappelé François Rouet quand il était venu ici il y a quelques semaines, c'est une économie de la singularité. Donc la question que j'ai à vous poser à tous les trois, vous qui avez des librairies toutes différentes, donc Christian Torel a parlé de la sienne, Eric va nous dire quelques mots de la sienne et vous aussi de la vôtre, qui sont des librairies dans lesquelles on a envie d'aller, envie de rester, qui sont des librairies de collectionneurs, et qui ne sont pas des librairies de livres anciens, ce sont des librairies de collectionneurs, d'amoureux de livres, où on pourrait passer du temps. Bon, moi, je suis interdit d'acheter, tu sais bien, j'ai plus le droit d'acheter de livres, puisque ma femme m'oblige, en fait, il faut qu'on fasse de la gestion dynamique de collection à la maison. Un livre qui rentre, un livre qui sort. Et donc, c'est un vrai piège, parce que vos librairies sont des lieux comme les bonnes bibliothèques où on a envie d'aller et où on a envie de rester. Donc, ce que je voudrais d'abord, c'est que vous nous disiez un peu comment Christian l'a dit tout à l'heure, comment ça se passe pour vous, l'état pour vous de la librairie, de vos commerces, parce que la librairie est aussi un commerce. Et ensuite, j'aurais d'autres questions à vous poser sur les éditeurs que vous défendez particulièrement, puisque si on a parlé de Thierry Lissépolo, il y a des tas de gens dont on n'a pas parlé, qui font un vrai aussi travail remarquable de bouteille à la mer, comme vous disiez. Alors, vas-y, Eric.
Je commence. Alors, tout à l'heure, Christian parlait des données, disons, numériques au sens des chiffres comme ça de la librairie, donc je peux tout à fait faire la même chose, mais en indiquant simplement que, évidemment, il y a une différence d'échelle entre la très grande librairie qui est Ombre Blanche et la nôtre, qui sommes une librairie moyenne, différence d'échelle, mais pas d'esprit, ça je peux vous l'assurer, et en particulier en ce qui concerne les sciences humaines. Donc notre librairie a été ouverte au XXe siècle, en septembre 2000, et j'ai l'habitude de nous définir comme des amateurs professionnels, et à tous les sens du mot amateur, c'est-à-dire que nous aimons ce dont nous parlons, et quelquefois ça a des influences économiques non négligeables pour les éditeurs. Donc cette librairie fait maintenant 250 mètres carrés, nous sommes 11 personnes à travailler là-bas, plus une personne qui est à l'extérieur au TNP, plus précis. Et puis nous faisons un chiffre d'affaires intéressant, je peux le donner, mais en même temps il est très fluctuant en ce moment parce que bizarrement, et même si ça peut être étrange à notre époque, nous sommes en bonne évolution. C'est extrêmement encourageant, et une des raisons de l'évolution de la librairie, c'est justement que nous avons développé notre rayon sciences humaines il y a maintenant un an et demi. Nous avons augmenté de à peu près l'espace disponible, enfin accordé à ce rayon, de 30 à 40%, ce qui n'est pas négligeable, donc bouger beaucoup de choses dans l'espace de la librairie. Et le résultat est là, le chiffre d'affaires général du rayon sciences humaines est en augmentation d'une douzaine de pourcents. Donc c'est très encourageant. Et donc je me dis, il faut continuer. Il faut continuer sur la lancée et le développer encore. Autant je suis d'accord à 100% avec Christian en ce qui concerne l'influence de l'histoire. Nous sommes effectivement des dépositaires de l'histoire, puisqu'il y a forcément un décalage entre la production de la pensée, de la sensibilité et ce que nous proposons. Mais en même temps, nous sommes des chefs d'entreprise. Alors, chef d'entreprise du commerce le moins rentable en France. Hein. Ça, c'est encore une étude qui a eu lieu l'année dernière. Enfin, vraiment, donc, sachez que le commerce de librairie est le commerce le moins rentable. Donc, quand nous devons investir, voilà, comme nous, par exemple, sur une potentialité, on se disait, mais c'est bizarre, on a besoin de développer le rayon sciences humaines. C'est un investissement d'argent qui est toujours risqué, mais c'est pas grave, on est là pour ça. C'est ce qu'on a fait, je pense, en suivant l'exemple de nos prédécesseurs. Et donc on est tout le temps en situation comme ça de projection, d'anticipation sur le futur. On fait des essais aussi. Et en ce qui concerne les livres numériques, c'est amusant d'entendre les discussions et les échanges de propos tout à l'heure. Les libraires indépendants sont extrêmement indépendants. Nous sommes tous persuadés d'avoir la meilleure librairie du monde et que nos voisins, c'est moins bien que nous. Bon. Donc ça, c'est comme ça. C'est une donnée humaine.
C'est un peu vrai.
Mais oui, mais c'est une donnée humaine. Mais absolument. Mais je crois qu'on est tous les meilleurs. Si on arrivait à s'en rendre compte tous ensemble, ça serait très bien. On pourrait mutualiser beaucoup de choses. Dans le domaine du numérique, il y a eu des tentatives qui ont échoué. Bon, c'est comme ça. Donc nous, on a perdu de l'argent, personnellement, pas mal à notre mesure. Mais c'est pas grave, on a rebondi sur autre chose. Il y a maintenant 3-4, disons, différentes possibilités comme ça pour les libraires. Mais nous, on a fait un test aussi, sans le médiatiser beaucoup. On a commencé à vendre des livres numériques sans le dire vraiment. Et en fait, ça marche un tout petit peu. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, hein, vraiment ridicule. Mais bon, moi je ne suis absolument pas contre les nouvelles technologies, vraiment pas. Et je crois que les libraires, contrairement à ce qu'on pense et à l'image poussiéreuse qui leur est bien souvent associée, ont été en pointe dans beaucoup de domaines, en particulier dans l'informatique. Je crois que je pourrais presque éditer des livres. Je connais à peu près toute la chaîne graphique en tout cas. Et ça, c'est des choses que nous sommes obligés de pratiquer, de maîtriser. Donc, si vous voulez, ces technologies ne nous font pas peur. Par contre, on n'est absolument pas fasciné par elles. Et il y a un petit problème avec la numérisation des choses, qui est un véritable fétiche pour beaucoup de personnes. Moi, non, je l'utilise. C'est un outil, c'est tout. Voilà. Alors, bon, petite présentation qui a débordé sur d'autres aspects.
Présenter la librairie ?
Ben oui.
Le Bal des Ardents à Lyon. En fait, sur les sciences humaines, c'était une volonté dès le départ. D'ailleurs, je pense que je me retrouve libraire parce que je suis un lecteur de sciences humaines et de littérature, mais toute ma formation d'homme et de citoyen et de trouver un équilibre. C'est par la lecture, c'est pour ça que je suis libraire. Si bien que moi personnellement, le numérique ne me pose aucun souci en tant que tel. C'est-à-dire que voilà, si tout le monde lisait du numérique, eh bien, je vendrais des livres d'occasion et ça ne poserait pas plus de problèmes. Je trouve tout de même qu'il y a un énorme bluff technologique. Je l'ai lu dans un livre éponyme. Je pense que ça pose tout un tas de problèmes politiques et éthiques, et que voilà, et qu'à ce sujet il y aurait beaucoup à dire. Je prends le métro comme vous, cher monsieur, et au contraire, depuis 2 ans, ce sont les livres papier qui sont revenus. D'abord, c'était les gratuits qui étaient là, mais moi, c'est juste non pas en tant que libraire, mais juste en tant que personne, je vois pas de gens qui lisent des tablettes numériques. J'ai vu le lancement au Salon du Livre en 2000, je crois. Et par contre, la question que je me pose, c'est surtout que pendant des mois et des mois, il y avait une page entière dans Le Monde qui faisait la publicité de cette liseuse. Vous savez ce que coûte une page entière dans Le Monde. Et tout ça à répétition. Je dis qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour un produit. Je crois qu'il n'y a pas de précédent, mais encore une fois, je ne suis absolument ni sociologue ni historien de la publicité, mais je crois qu'il n'y a pas de précédent sur l'argent dépensé et sur le retour sur l'investissement. Vous avez parlé des États-Unis, j'ai lu et c'est attesté, c'est, je crois, dans... pas le Washington Post, mais le New York Times, c'est 53 millions de dollars de pertes en 2011 sur le numérique. aux États-Unis. Donc, etc., etc. Enfin, moi, je veux dire, on parle de sciences humaines et de numérique, mais je pense qu'à mon niveau, donc, j'ai une librairie qui se porte très bien. On est en augmentation de 15% chaque année, ce qui, je crois, enfin, un petit peu moins en 2011, mais en tout cas, est quand même à l'encontre de la moyenne. Par contre, il y a plein de libraires qui vont pas bien, et entre autres, parce qu'il y a le numérique est arrivé ici, et que l'argent qui pourrait soutenir ces libraires est plutôt dédié, je crois, à des aides sur le numérique que sur le papier. Je voulais peut-être juste terminer. J'ai donc 200 mètres carrés en plein centre-ville de la deuxième ville de France, sinon de la troisième. Et à ce jour, pas une personne est rentrée pour me demander un fichier numérique. Pas une seule. Qu'on vienne pas me dire, oui, mais le bal des Ardents, c'est un peu pointu, etc. J'ai des touristes en Bermuda et Patogas, comme tout le monde.
Moi, j'en ai eu trois, pas de Patogas. Trois en 10 ans. Trois personnes qui ont demandé. C'est pour donner un ordre d'idée, quoi.
Mais alors, une question que je voudrais vous poser à tous les trois, voire à tous les quatre, à François, c'est effectivement la question de la santé de la librairie. J'ai toujours entendu dire, alors c'est un peu, comment dire, entre nous, mais les gens de la DELC, Didier Grevel par exemple, dire la librairie est viable. En même temps, il y a effectivement des librairies qui ferment, des librairies qui se créent, et on sent bien, c'est ce que j'arrive pas à percevoir, le pourquoi, et sur. Alors vous vous dites, finalement, d'une certaine façon un peu tous les trois, c'est aussi grâce aux sciences humaines. Est-ce que c'est attesté, avéré? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qualités qui nous rapprocheraient du monde des bibliothèques? L'accueil, la constitution du fonds, la présentation des collections, la présentation des fonds. Alors vous avez parlé aussi des rencontres. Enfin bref, comment faire vivre un fonds aujourd'hui? Donc il y a à la fois deux questions. La première, c'est votre sentiment, votre avis sur la librairie est viable. La preuve, quand même, oui. Pour le moment, est-ce que vous avez des raisons précises ou pas? Et est-ce que c'est attesté ou pas? Et la deuxième, c'est au fond quelles pourraient être des recettes qui pourraient être des recettes ou du moins des objectifs, des orientations communes avec le monde de la bibliothèque. Et je reprends, je termine, la notion, parce que j'ai oublié sinon, que vous aviez donné dans un texte que vous m'avez fait parvenir, la notion de bien public.
Oui. Je peux peut-être.
La librairie est une notion de bien public.
Moi, je peux dire un mot, et je suis quand même déjà beaucoup parlé, mais comme je suis un peu plus ancien que mes deux confrères, juste dire que nous la création d'Ombre Blanche, c'est 1975, et au départ, c'était même avec François Maspero, la maison sur laquelle, qui a succédé à La Découverte, et dont La Découverte est encore le porteur du catalogue. Et donc nous avons démarré sur un projet qui était sensiblement de monter une joie de lire à Toulouse, rue Gambetta, avec évidemment tous les attributs de la joie de lire, c'est-à-dire d'abord une direction politique, on peut le dire comme ça, une direction politique qui était marxiste-léniniste. Bon, on vient de cet univers-là, je ne le réfute pas, je ne suis pas comme un certain recteur de l'Académie de Toulouse, qui est un de tes auteurs, qui lui-même, dans sa fiche bibliographique, quand il a été nommé recteur à Toulouse, il a fait disparaître des bouquins de chez Maspero. Ouais. Le frère de l'autre, de Godomar. On va le nommer. Bon, voilà. Donc, ou M. Jospin, qui avait caché qu'il était trotskiste. Bon, donc, moi, je n'étais pas trotskiste, mais enfin, j'ai travaillé dans une librairie qui avait cette direction-là. C'était des librairies d'offres. Essentiellement. Et effectivement, le catalogue était au centre de tout. Bon, et on avait du catalogue, et on pensait qu'avec simplement un bon catalogue et des lecteurs, ça suffisait pour que les gens rentrent. À un moment donné, il faut quand même mettre un peu de lumière dans la librairie, parce que le catalogue ne suffit pas. Je vais aller très très vite. Donc entre 1975 et 2000, grosso modo, ou 1995, on a augmenté cette librairie, on est passé de 80 mètres carrés, donc en 2000 à 1600, et on a changé un peu, peut-être pas l'idée que l'on se fait du métier, mais les manières dont on a traité le catalogue. Et effectivement, aujourd'hui, il y a deux choses, et je finirai là-dessus. La question de la clientèle est une question importante, fondamentale. Il y a la fameuse bagarre, qui va devenir fameuse bagarre, sont-ils des clients ou des lecteurs? Moi, je dis ce sont des lecteurs, mais ils deviennent clients de nos commerces. Nous sommes un commerce de librairie, comme le disait Diderot en son temps, donc il n'y a pas de changement de ce point de vue. Et donc, comme tout commerce, il faut s'occuper des clients. Et par ailleurs, nous avons, je crois, nous avons une action politique à l'intérieur des villes dans lesquelles nous œuvrons. Et donc, ça nous donne... cette action, elle se fait diversement. Bon, je citais les débats, et c'est pas rien à Toulouse. Je pense que nous sommes une espèce de centre culturel privé. Et je crois que tout ça procède effectivement d'une idée du bien commun, du bien public, et même si il n'est pas niable que nous sommes des entreprises, 50 salariés, il faut les payer. Et moi, d'une certaine façon, j'ai mis des années, mais je suis d'une certaine manière assez fier de pouvoir assurer 50 emplois. C'est tout de même pas rien dans un temps où on ne fait que des chômeurs en fermeture, avec des fermetures d'entreprises. Voilà. Donc cette notion de bien public, je pense qu'elle est effectivement fondamentale.
Là, tu parlais de la viabilité des librairies. Bah, si j'étais convaincu qu'elle ne subsiste pas, je ferais autre chose. Mais moi, je suis persuadé que ça va continuer dans la mesure où on tient toujours une attention plus que soutenue à l'offre que nous proposons. Je rejoins un petit peu ce que tu dis. J'ai relu, c'est amusant, à l'occasion des rencontres nationales de la librairie, là, qui ont eu lieu à Bordeaux il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai relu le texte de Diderot, moi, sur le commerce de la librairie. Et il y a quelque chose qui est bien sûr une phrase qui est toujours notée, mais on n'a peut-être pas bien remarqué le dernier membre de la phrase. C'est celle-ci, pas les mots exacts, mais le sens y est, en tout cas. Un commerce de librairie, c'est donc un choix d'ouvrage qui est proposé par un libraire. Faisons attention, il y a 2 sortes d'ouvrages, dit-il. Les ouvrages qui se vendent facilement, et c'est ça le but de la phrase, la visée ultime, et qui doit alors toujours rester la nôtre à mon sens, qui permettent de proposer ceux qui se vendent plus difficilement. C'est tout simple ça, mais c'est tout à fait toujours le point ultime, en tout cas pour une librairie comme la nôtre. Et c'est par contre, ce qui est important, et il le dit déjà aussi Diderot, c'est amusant, c'est qu'il y a des demandes, et il faut satisfaire les demandes. Bon, ben, donc c'est un équilibre absolument imparfait, un équilibre déséquilibré, quel que soit l'oxymore qu'on peut trouver, c'est tout à fait des histoires d'oxymore en permanence en librairie. Quand même, pour donner l'idée, pour vous expliquer l'idée que les éditeurs sont très attentifs à certains débuts de vente, comme ça, de libraires, puisque, comme dit un éditeur, il y a des libraires qui sont là, qui essayent de créer du son, et d'autres qui l'amplifient. D'autres qui l'amplifient, c'est le grand pot de fer, là, dont on parlait souvent. Je suis heureux de dire que le dernier livre de Tanguy Viel, qui est paru aux éditions de Minuit, nous en avons vendu plus, à l'heure actuelle, ça va peut-être changer, qu'Amazon. Ça fait plaisir. Voilà, donc l'éditeur l'a remarqué. Après, j'espère que ça va faire un effet de boule de neige. C'est déjà arrivé pour pas mal de livres, dont le succès de Polar Millennium, qui a été au départ un livre qui a été soutenu par 3-4 libraires au début en France. Après, c'est devenu un best-seller. Les éditeurs n'oublient pas ça. Et le Rhinocéros d'or dont on parlait tout à l'heure, chez nous, c'est actuellement une de nos meilleures ventes, parce qu'un de mes collègues, je ne l'ai pas lu personnellement, l'a adoré, et a fait un travail auprès des gens, comme ça, donc en disant que c'était un livre absolument indispensable à lire. Et quand au départ, il parle du sujet, évidemment, ça surprenait les gens. Mais enfin, donc je crois que cette offre appuyée sur un enthousiasme, je disais tout à l'heure, amateur, au beau sens du terme, c'est essentiel, c'est essentiel. Et ça peut être aussi une force économique. Et souvent, les libraires ne comprennent pas ça. Mais bon, un autre débat.
Alors, les ouvrages que vous présentez sont indépendants. Enfin, vous présentez voilà, des ouvrages de sciences humaines et sociales, comment dire, pas classiques, mais vous présentez aussi des fonds d'éditeurs particuliers, je pense aux éditions de l'Éclat, je pense aux éditions Vrin, je pense à les Prix Ordinaires, Amsterdam, Agone, que vous vendez, que vous prescrivez. Comment ça se passe? Comment est-ce que la librairie pour vous?
Oui, en fait, moi, au départ, j'avais pas les moyens financiers de monter un fonds de sciences humaines. Donc, j'ai choisi déjà d'appeler le fonds Critique sociale. Donc, il était tout de suite orienté. Et donc, les éditeurs auxquels vous faites référence, Découverte, Fabrique, Amsterdam, Agone. Voilà, ont été forcément mis en avant avec quelques autres plus anecdotes comme Libertalia puisque Vrin, là par contre on est dans le fond philosophique tout à fait classique voilà, et le travail est excellent ça a mis un petit peu de temps même à démarrer, enfin quand parle de viabilité de la librairie, je dirais tout compte. Donc, moi, je suis dans une petite rue, c'est le principal handicap, on va dire, de ma librairie. Bien entendu, quand vous êtes sur une grande avenue, vous payez nettement plus de loyer, donc vous augmentez vos charges, donc il faut vendre plus, etc. Enfin bon. Mais pour ce qui est des sciences humaines, c'est un choix. Et par contre, on voit quand il y a d'un seul coup. Parce que. Là, vous avez évoqué d'abord... d'ailleurs, je trouve que vous avez évoqué dans le même groupe, si vous voulez, Amazon, c'est-à-dire l'e-commerce et le numérique. Pour moi, c'est déjà deux choses complètement différentes. Je veux dire qu'un type qui, au fin fond de la campagne, commande un bouquin et qui lui arrive en 48 heures, je vois pas sincèrement pourquoi il se priverait, quoi. Je veux dire... par contre, là où ce qui a été moins évoqué sur le fond, alors évidemment pas une librairie comme la vôtre, absolument magnifique, mais pour beaucoup de mes confrères, c'est comment le constituer et qu'on a petit à petit supprimé l'offre, alors que la demande, à mon avis, est vive. Donc, c'est-à-dire que c'est bien gentil de dire, il faut du fond, mais après, est-ce que ceux qui sont censés nous soutenir, moi, on m'a dit non, personnellement. Sur le fonds de sciences humaines, on m'a dit « Niette, on ne vous prêtera zéro sur sciences humaines pour les aides qu'on peut avoir à constituer un fonds. Oui, je voulais dire donc, quand il y a eu un peu la crise économique de 2008, d'un seul coup, là, il y a eu vraiment une sorte de et puis peut-être aussi que petit à petit, le bouche à oreille se fait. Et ce rayon s'est mis vraiment à être de plus en plus pertinent, économiquement parlant. Cela dit, comme de toute façon, je suis en perpétuelle recherche et d'augmentation, et que j'ai monté un fonds de psychanalyse, parce que j'avais un libraire qui était aussi versé dans ce domaine. Et donc, parce que. Contrairement, je dirais, à un fonds littéraire, enfin pas contrairement, non, le livre est toujours très bien d'avoir lu les livres et de les aimer en roman, mais c'est vrai que le fonds de sciences humaines réclame des compétences, en tout cas, pas supérieures dans l'ordre de la valeur, mais je veux dire que la personne en face de vous va très bien voir, enfin rapidement voir si vous connaissez votre fonds ou votre domaine ou pas. Et donc là aussi, il faut un personnel compétent qui n'est pas si évident. Vous qui avez donc 50 libraires, ce qui m'impressionne beaucoup. Mais je veux dire, il y a de toute façon une sorte de... Peut-être le mot déliquescence est un peu fort, mais en tout cas, c'est plus difficile de trouver des personnes qui connaissent un fond de sciences humaines, qui savent en parler, qui connaissent un peu l'histoire, enfin... C'est beaucoup moins évident, donc c'est un écueil supplémentaire, on va dire, à travailler en sciences humaines. Donc, effectivement, en ce qui me concerne, j'ai trouvé une viabilité pour en venir à l'économie, mais enfin, il est clair et net que la librairie, c'est de la haute voltige. Si vous n'êtes pas passionné, à moins évidemment d'être rentier, ce qui arrive quand même parfois, et tant mieux pour eux, mais... En gros, c'est quand même, en ce qui me concerne, essentiellement de la passion. C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, et en ce qui me concerne, vous touchez le SMIC. Voilà.
En fait, de toute façon, c'est le SMIC au pire multiplié par deux, et puis voilà, on est au bout de toute l'échelle des salaires en librairie. Hein. C'est comme ça, hein. Ça, c'est une réalité.
Vous constatez une baisse, une fermeture, ou à votre niveau, avec les éditions que vous publiez, un niveau à peu près constant de la librairie. Vous nous avez cité entre 50 et 100 libraires qui vous soutiennent absolument.
Enfin, qui suivent, non, qui défendent les bouquins les plus pointus que je publie. On travaille heureusement avec beaucoup plus. On a aussi des livres plus larges, plus de librairies. Non, sur ce marché difficile que j'évoquais des livres de recherche, là, il est certain que les ventailles se rétrécissent. Mais les libraires. Enfin, de toute façon, il n'y a personne n'est spécialisé uniquement là-dessus. Ce serait de la folie de faire que des bouquins hyper pointus, parce que bon, là, ça paraîtrait. Moi, ce que je constate, c'est que c'est plutôt une stabilité globale et que finalement, il y a quand même pas mal de libraires qui s'en sortent bien. Je peux donner un chiffre. À l'ADEC, l'Association pour le développement de la librairie de création qu'on a créée avec Mimi, Gallimard et Le Seuil il y a 25 ans maintenant, pour financer les libraires à se créer ou à se développer. Quand même, on a injecté 30 millions d'euros en 25 ans, c'est pas mal. On a aidé 452 libraires, dont certains plusieurs fois. Là-dessus, il y a eu 24 disparitions, simplement. Et sur les 452, il y a eu, je ne sais plus combien, 120 créations, 130 créations. Donc c'est quand même le cœur de la librairie indépendante. Il fonctionne bien. Par ailleurs, bon, vous avez dit, mais il faut insister quand même, c'est les plus mal payés de toute la chaîne du livre. Hein. Et de loin, et de très très loin. Ça ne fonctionne bien que parce qu'ils sont sous-payés, et notamment en sciences humaines, où effectivement, comme vous dites, il faut des bacs plus je ne sais pas combien, et quand même arriver à ce qu'il faut vraiment avoir l'amour du livre chevillé au corps pour accepter de mettre ses compétences à la disposition. Enfin, un métier qui est si mal payé. Et en revanche, effectivement, le paradoxe, c'est que, ça on l'a vu, c'est que les grandes chaînes, elles ont, comme on disait tout à l'heure, de plus en plus de difficultés économiques. Mais ce qui m'a plus frappé, c'est l'affaire de Chapitre, qui est quand même un truc assez incroyable, parce que Chapitre, c'est toute une histoire sur 15 ans, 20 ans. Au départ, c'était un groupe qui quand même commençait à racheter des belles librairies de centre-ville, librairies bourgeoises, anciennes, etc. Ensuite, c'est la librairie du savoir qui est devenue Priva, quand ils ont racheté la librairie Priva à Toulouse, dont on parlait. Et puis bref, et puis qui a continué comme ça, passant de main en main, capitaliste, jusqu'à être acheté par France Loisirs, c'est-à-dire les Allemands, le grand groupe Bertelsmann, et puis maintenant un fonds de pension américain. Or, qu'est-ce qui s'est passé là? 50 librairies. Et il s'agit qu'il y avait tout leur... qui étaient toutes distinctes, qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, qui avaient toutes leur histoire, soit une histoire longue, plus de 100 ans, enfin, c'était assez impressionnant, quoi. Là, maintenant, depuis 3-4, il y a toujours eu des volontés de centraliser, mais là, ils ont accéléré ça il y a 3-4 ans, on va centraliser, on va faire comme la FNAC, voilà, un seul point pour prendre les commandes pour tout le monde, comme ça, on va faire les foutues économies. Résultat des courses, en 3 ans, ils ont creusé un trou abyssal. Et ils mettent en vente et disent on va fermer, ils commencent sur les 50, on va en fermer 12. Cette gestion purement capitaliste d'un commerce de culture, c'est la catastrophe assurée. Quoi.
Enfin, c'est une gestion capitaliste et techniciste, quand même, puisque en fait, les réassorts se font de façon centralisée à partir des ventes de chacun des magasins. C'est-à-dire que on a dépouillé les libraires.
Et moi, j'ai vu des chiffres. Il y a des librairies qui gagnaient de l'argent, qui fonctionnaient bien parce qu'il y avait une autonomie de gestion, tout simplement, du magasin. J'ai vu les chiffres. Je veux dire, celui qui gagnait, c'était en 5%, parce que quelquefois, quand vous êtes gros, vous gagnez pas mal, plus que la moyenne. C'est moins 10.
Mais ce sont quand même des fiascos presque annoncés. Hein. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'ils divisent leur stock. Mais si j'ai trouvé si la société librairie a trouvé l'équilibre, c'est à cause du fonds. C'est parce que j'ai du fonds que j'ai accepté du fonds, et je vends 60% de fonds pour 40% de nouveautés. Et eux, ils l'ont divisé, ils l'ont dit. Bon, effectivement, sur le papier, au bout de... Bon, pour tout un tas de raisons d'amortissement, tout ce que...
Effectivement.
Vous gagnez de l'argent sur les 3 mois, mais vous perdez 150 clients tous les 15 jours. Et c'est aussi crétin que ça, quand même.
Comme nous, ça nous pénalise fortement, parce qu'entre les FNAC, ils ont aussi diminué leurs fonds, parce qu'il fallait augmenter la rotation des stocks, chaque fois plus. Les chapitres qui ont été traités, comme je viens de le dire, de toute façon, c'est mon bouquin, il ne les vendait pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Enfin bon, il y en a d'autres que ça embête plus que moi. Mais quand même, ce mode de gestion-là, c'était au détriment quand même de toute une partie de la production littéraire et de sciences humaines, qui est sans doute la plus intéressante, la plus exigeante, la plus difficile, où on a besoin de relais qui se battent pour défendre les bouquins, etc., etc. Parce que, voilà, on compte plus que, finalement, sur cette librairie indépendante. Et puis Amazon, je dois dire.
Je
ne compte dessus.
Alors, il y a quelques années, il y avait eu le livre de Chiffrine, l'édition sans éditeur, qui était vraiment intéressant. Mais le cas de ces librairies, c'est des librairies sans libraire. C'est-à-dire que la direction ne connaissait absolument pas le métier du livre. Vous parliez tout à l'heure des taux de retour qui peuvent être impressionnants et entraîner des pilons, des pilonnages de livres. Si on fait attention à ses achats, et c'est très difficile de faire attention à ses achats, de résister aux pressions des maisons de diffusion, on peut avoir un taux de retour tout à fait correct. Nous, il est de 11,5 en moyenne. Donc c'est très bien, et les taux qu'on, les éditeurs que nous maîtrisons mieux sont à 5% le taux de retour.
Voilà, c'est... Donc bientôt ce seront, avec les robots à venir, ce seront aussi des livres sans auteur sûrement, et oui, comme on pourra prendre sûrement des piqûres formidables, on aura des lectures sans lecteur, et on sera sous...
Mais en fait, on est tout de même à l'ENSI, on parle d'économie de librairie et on parle de chapitre.com. Or, ce matin, j'ai accueilli une stagiaire pour le mois de juillet qui vient de Clermont-Ferrand et qui me dit qu'une librairie très réputée...
Les volcans.
Volcans de jeunesse, s'est fait prendre le marché public... de 80 000 euros par chapitre.com. C'est-à-dire que la librairie, elle a 25 ans, elle fait un vrai travail avec les bibliothécaires, elle connaît son fonds, parce que non seulement, évidemment, chapitre.com, ils vont fermer, ensuite, les libraires dedans, si c'était les anciens, ça va, il y avait de la compétence, mais souvent, après, on prend les gens, qui ne connaissent pas nécessairement leur métier, et on met en danger, sinon... elle est très mal, puisque ça représentait 27% de son économie. Donc il est important aussi, moi j'en ai pas parlé parce que je ne commissionne pas dans le marché public, mais dans l'économie de mes confrères, la part des marchés est très très importante. Or il se trouve que, manifestement, c'est quand même les grands groupes qui ont aussi squeezé cette part qui est supposée aider les libraires indépendants. C'est aussi dans un livre que j'ai lu qu'il y a 6 bibliothèques pour une librairie en France. Vous voyez, enfin, moi, personnellement, j'aurais pensé le contraire. Donc, c'est quand même assez révélateur. Voilà. Mais dans l'économie de mes confrères, je sais que ça peut peser parfois très lourd.
Il faut donc faire attention, quand on est libraire, de ne pas avoir trop de bibliothèques clientes.
Marché public, bien sûr.
Voilà.